À l'écoute de RFI, Radio France Internationale. Et je vous en remercie. Il est 1h à Paris, 19h à Washington.
Mathis Limano.
À la une, élection présidentielle américaine en cours, défile d'Américains devant les bureaux de vote du pays. Bureaux qui ont fermé leurs portes dans plusieurs états, l'Indiana, le Kentucky et à l'instant la Floride, la Virginie ou encore l'état clé de Géorgie. Juste après les titres, on se rend à Washington, retrouver notre correspondante Karine Auton en direct du QG de Kamala Harris. À suivre également, reportage dans l'état clé de l'Arizona, très disputé et contesté en 2020. Il avait été remporté par Joe Biden. Et puis en Espagne, après les inondations tragiques, place aux polémiques, les politiques s'écharpent quant aux responsabilités de chacun.
RFI.
À Washington, les festivités devraient commencer d'ici un peu plus d'une heure. Kamala Harris a choisi de passer sa soirée électorale dans cette université qui l'a faite, dit-elle souvent. Howard University, c'est le Harvard noir, comme on le surnomme aux États-Unis. C'est la première fois qu'une telle soirée se déroule sur un campus. Notre correspondante Karine Auton est quasiment au pied de l'estrade. Carrie, bonsoir, bonjour chez vous.
Bonjour Mathis.
Comment est l'ambiance à Howard ?
Écoutez, l'excitation est certaine hein, sur le campus. Les étudiants arborent fièrement leurs t-shirts, leurs blousons siglés Howard. Ils n'ont pas tous eu un ticket pour venir dans la cour, le yard, où ont été montées l'estrade et les tribunes. Alors, ils organisent des soirées télé dans leur dortoir. Ils sont globalement très fiers de voir Kamala Harris fêter la fin de sa campagne ici. Potentiellement, elle pourrait devenir cette semaine l'ancienne la plus illustre de l'université. On ne sait pas à quelle heure elle arrivera au QG, certainement après que la plupart des résultats commencent à tomber. D'ici là, le filage continue avec des chorales, comme vous pouvez l'entendre. Et on a vu Miss Howard, la Miss de l'université, répéter l'hymne national, couronne sur la tête aussi.
Et on imagine que tout est fait sous très haute sécurité.
Il a fallu barricader un campus entier en une semaine seulement. Je vous laisse imaginer le défi. Des dizaines de rues autour de l'université sont bloquées, gardées. J'ai vu des dizaines de cars de policiers s'installer tout autour. La Maison Blanche a été barricadée également par précaution, puisque depuis la prise du Capitole, les autorités ne veulent rien risquer. Car même si à Howard, on est certain que Kamala Harris va remporter cette élection, on le sait, la course n'a jamais été autant serrée. Et à Washington, on craint les mauvais. Pardon.
Merci Karine Auton en direct du QG de Kamala Harris à la Howard University. Notre réseau de correspondants à travers les États-Unis pour vous faire vivre cette élection historique. RFI passe d'ailleurs en édition spéciale à 3h temps universel, 4h heure de Paris. Élection qui nous emmène à présent dans l'état clé de l'Arizona. Plus de 7 millions d'habitants, 11 grands électeurs à rafler pour le gagnant. En Arizona, l'indécision est reine. L'état s'est toujours teint en rouge républicain depuis l'élection de l'an 2000. Mais il y a 4 ans, Joe Biden l'avait emporté d'une courte tête. C'est là-bas que le camp Trump avait le plus vivement contesté les résultats. La fin de campagne tendue cette année fait craindre un scénario identique. Reportage d'Abla Junaidi à l'ouverture d'un bureau de vote de Mesa dans la banlieue de Phoenix.
Le jour du vote est arrivé, c'est la fin d'une campagne tendue en Arizona et dans le pays en général. Anne et Lisa, un couple homosexuel, tenaient à être les premières dans la file.
Je pense que la lumière triomphe toujours. C'est ce qui nous guide. Toute cette haine, toute cette division prendra fin. L'espoir, l'amour et le respect reviendront.
C'est vrai, c'était très difficile pendant cette campagne de prendre sa part. On essaye de prendre de la distance, mais on veut aussi parler à tout le monde, quelles que soient ses opinions.
Quatre rangs derrière elle, Rachel est venue avec sa mère.
J'espère que ce sera Trump, mais on verra. Je voulais venir voter en personne, c'est mon opinion. Je ne veux pas que mon bulletin de vote se retrouve dans une boîte quelque part, puis dans une machine. On a décidé ça avec ma mère. Je veux voir les résultats aujourd'hui.
Beaucoup d'électeurs pro-Trump sont allés voter en avance, pourtant.
C'est ce qui me rend nerveuse, parce que ça peut facilement être manipulé.
Malgré les efforts des autorités pour rendre le processus le plus fluide et transparent possible, les soupçons de fraude se font toujours entendre en Arizona. Abla Junaidi, Mesa, dans la banlieue de Phoenix, RFI.
Et dans l'état-clé de Pennsylvanie, premier soupçon d'irrégularité. Donald Trump évoque des fraudes massives dans la capitale de l'État, Philadelphie. Le candidat républicain évoque des rumeurs sans apporter de preuves, rumeurs démenties par un responsable républicain chargé de superviser le scrutin. Les États-Unis et le reste du monde retiennent leur souffle pour savoir qui entrera à la Maison-Blanche. Mais ce n'est pas le seul enjeu. Il s'agit aussi de savoir qui remportera la majorité au Congrès. RFI Washington, Guillaume Nodin.
La course à la présidentielle est serrée, mais la course à la majorité parlementaire l'est tout autant. L'intégralité de la Chambre des représentants est renouvelée à l'occasion de cette élection, les 435 sièges qui représentent 435 circonscriptions à travers le pays. Actuellement, il faut 218 sièges pour avoir la majorité à la Chambre, les Républicains en détiennent 220 et les démocrates ne désespèrent pas de reprendre le contrôle de cette Chambre basse. Mais il faut s'attendre à ce que les résultats illustrent la profonde division et la profonde fracturation du pays. Au Sénat, ce sont 34 sièges, un tiers des 100 qui composent la Haute Assemblée qui sont renouvelés. Actuellement, les démocrates détiennent une très fine majorité de 51 sièges contre 49. À moins d'une vague en leur faveur, il sera difficile pour eux d'en garder le contrôle, parce que les sièges qui sont remis en jeu cette année sont ceux d'États a priori plutôt conservateurs, où les démocrates avaient remporté des victoires inattendues lors du précédent cycle électoral. Il y a par exemple le Montana, où ils ont un siège à défendre, mais aussi l'Ohio ou encore la Virginie-Occidentale. Une situation qui donne le sourire aux républicains et leur permet d'afficher une confiance prudente. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Vaincre l'ennemi, l'objectif affiché du nouveau ministre israélien de la Défense dès sa nomination, Israël Katz, encore chef de la diplomatie. Il y a quelques heures, il remplace Yoav Gallant, limogé par le premier ministre Benjamin Netanyahou. Selon ce dernier, la confiance s'est érodée ces derniers mois avec Yoav Gallant. C'était un partenaire important, a réagi Washington, qui semble regretter ce limogeage surprise en pleine élection présidentielle américaine. Mais un limogeage pas si surprenant. Yoav Gallant plaidait pour une trêve avec le Hamas à Gaza pour permettre la libération des otages, en désaccord avec Benjamin Netanyahou, dont l'objectif principal reste l'anéantissement du mouvement islamiste palestinien. À Tel Aviv, des centaines de manifestants sont spontanément descendus dans la rue, drapeaux israéliens et tambours à la main pour dénoncer le limogeage de Yoav Gallant. Ils ont délibéré pendant plus de 5 heures au Mexique. Les juges de la Cour suprême valident la très controversée réforme du système judiciaire en rejetant un recours en annulation visant à annuler justement cette réforme qui prévoit l'élection de tous les juges du pays par un vote populaire. Réforme née sous l'ex-président Andrés Manuel López Obrador et ardemment défendue par sa successeur, la nouvelle présidente Claudia Sheinbaum. 6 jours après la catastrophe qui a frappé la région de Valence en Espagne, l'heure est désormais à la polémique et au règlement de compte. Si dans un premier temps, le président de la région, Carlos Mazón, remerciait le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, pour la réponse rapide apportée par les autorités, eh bien désormais, ce même Carlos Mazón accuse certains organismes de l'État de défaillance. Une manière de s'en prendre à l'exécutif pour cet élu conservateur qui n'hésite pas à dénoncer le manque de réactivité, selon lui, de l'armée espagnole et en particulier du régiment chargé d'intervenir rapidement en cas de catastrophe naturelle. Romain Lemaresquier.
Alors que sur place, la situation reste toujours compliquée pour les habitants touchés, sans parler des familles des victimes et des personnes toujours portées disparues, certains responsables politiques semblent déjà vouloir régler des comptes. Il faut dire que la colère anime nombre de personnes. Dimanche dernier, lors de la visite du roi Philippe VI et du chef du gouvernement Pedro Sánchez, des habitants à bout de nerfs avaient jeté de la boue sur les deux hommes et même porté un coup à Carlos Mazón, le président de la région de Valence qui les accompagnait. Pedro Sánchez avait dû quitter les lieux sous les insultes, alors que Philippe VI et la reine Laetitia était restée sur place pour tenter de discuter avec des victimes. Suite à cet épisode, la gratitude de Carlos Mazón envers les autorités s'est transformée en reproche. Le président de la région de Valence a littéralement changé de discours, accusant désormais l'armée espagnole d'inaction ou encore les organismes qui gèrent les alertes météo d'avoir désactivé les systèmes. Carlos Mazón, membre du Parti Populaire, formation conservatrice, reprend ainsi le discours de son parti et de son leader Alberto Núñez Feijóo. Pendant ce temps, 6 jours après la catastrophe, les secouristes et les habitants de la région de Valence tente toujours de retrouver des disparus.
Disparus qui sont au nombre de 87 selon les autorités. Le parking souterrain d'un centre commercial à Aldaïa, pouvant accueillir près de 6000 places, suscitait de nombreuses craintes. Aucune victime n'y est à déplorer selon le directeur de la police nationale. Et puis un mot de Ligue des Champions pour refermer votre journal. Défaite surprise pour deux cas d'or. D'abord le Real Madrid transparent qui s'est incliné à domicile 3-1 contre l'AC Milan. La claque aussi prise par Manchester City au Portugal. Défaite sur le terrain du Sporting Lisbonne 4-1. Et puis Monaco, toujours invaincu, est allé gagner à Bologne. Le LOSC, les Lillois, ont tenu tête à la Juventus 1-1. RFI, les 1h10, à Paris, 19h10, à Washington, je vous le rappelle, RFI qui passe en édition spéciale, élection américaine, à partir de 4h de Paris.